Jérémy Filosa, étais-tu un grand fan de gardien de but, toi, Jérémy?
Ben, écoute, tu peux pas être un fan du Canadien sans être un fan de gardien de but. On a eu tellement de grands gardiens de but dans l'histoire de cette équipe-là. On dirait que c'est la position un peu emblématique de l'équipe, même si on a eu des grands marqueurs, mais plus récemment, moins. Mais c'est sûr que j'étais un grand fan de Patrick Roy quand j'ai grandi. Puis pour moi, Patrick, c'est le plus grand parce que de tous ceux qu'on peut nommer, c'est probablement celui qui a joué à l'épopée où l'équipe a été la moins bien nantie. Là. Si on pense à Ken Dryden, puis à Jacques Plante, puis tous ceux qui sont passés avant. Donc, pour moi, les deux Coupes Stanley de Patrick Roy, c'est des coupes qu'on n'aurait jamais gagnées s'il n'avait pas été là. Donc, pour moi, c'est l'expression anglophone « difference maker ». Pour moi, Patrick Roy, c'est le plus grand.
Et je complète sur le sujet des gardiens avec deux petites statistiques. Patrick Roy, en 1993, on compare là, des séries là, de grand niveau de performance, 929 de pourcentage d'efficacité avec 2,13 de buts alloués. Puis Price, cette année, 935 d'efficacité, 2,08 de buts alloués. Mais on s'entend pour dire que c'est beaucoup plus défensif comme système aujourd'hui, je pense, qu'à l'époque. Voilà pour les gardiens de but. Et Jérémy, donc, plusieurs sujets. Commençons par parler un peu de boxe. Oscar Rivas, moi, c'est un boxeur que j'ai toujours aimé, sauf que dans les super lourds, il était des méchantes pièces d'hommes sur le même ring. C'est pas évident. Puis là, il va se battre pour un titre c'est pas d'une nouvelle catégorie, mais explique-nous exactement le titre de la WBC.
Oui. Ben, en fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on trouvait que chez les poids lourds, on avait vraiment besoin d'une autre catégorie pour différencier vrais poids lourds des genres de cruiserweight. Là. Et donc, on a créé une nouvelle catégorie, on peut le dire comme ça, donc les super lourds légers. Je sais que ça peut faire bizarre comme nom, mais on parle de boxeurs ici entre 200 et 224 livres. Donc, on a créé cette catégorie-là. Et là, ben Oscar Rivas, qui a gravi les échelons tranquillement, pas vite, ben s'est rendu à se placer dans une position pour se retrouver dans un combat de championnat du monde. Donc, lorsqu'il va affronter le 22 octobre prochain Brian Jennings, ben le gagnant de ce combat-là va devenir le premier champion du monde, dans ce cas-ci WBC, de l'histoire de cette nouvelle catégorie. Brian Jennings aujourd'hui a parlé à quel point c'était important pour la sécurité des boxeurs, l'ajout de cette catégorie-là. Et Oscar Rivas, c'est un gars qu'on connaît pas beaucoup, Mario, mais comme tu le dis, c'est tout un boxeur. Une seule défaite à sa fiche. En plus, c'est un fichu de bon gars. À chaque fois que j'ai eu la chance de l'interviewer, extrêmement généreux. Son français s'est beaucoup amélioré depuis les années qu'il est arrivé ici au Québec. Donc,
c'est un excellent boxeur, Jérémy. Il était comme squeezé entre deux catégories parce que, honnêtement, là, puis il a donné du fil à retordre à des gros adversaires, le plus gros que lui. Puis j'ai décrit plusieurs de ses combats. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de le voir de près. Fait que je suis content qu'il ait cette chance-là. Puis j'espère qu'il pourra la saisir contre un gars qu'il a déjà affronté, d'ailleurs.
Oui, Jennings, ils se sont déjà affrontés en 2019. Puis Rivas, il avait passé KO au 12e round dans un combat extrêmement serré où après cause, là, on s'est rendu compte que c'est pas tous les boxeurs qui avaient la décision qui allait du même côté. Donc, un très, très bon combat. Puis en plus, Brian Jennings aussi, c'est un gars extrêmement respecté dans le monde de la boxe. Aujourd'hui, beaucoup de respect de part et d'autre là, des deux boxeurs et des entraîneurs pour leur adversaire. On va voir où est-ce que ça va nous mener, tout ça. Mais tu sais, Yvon Michel nous a avoué que tu sais quand tu as un champion du monde dans ton écurie, ça change tout. Quand tu lèves le téléphone, tu appelles des réseaux de télé, tu appelles d'autres promoteurs pour organiser des combats et tout ça, on te prend plus au sérieux. Présentement, depuis que Marie-Ève Dicaire a perdu son titre, il n'y a pas de champion du monde au Québec ou dans l'écurie de Yvon Michel. Donc, il se croise vraiment les doigts. Puis lui, il trouve dans sa personnalité qui ressemble beaucoup à Éric Lucas, un gars vraiment gentil, un bon cœur, puis qui, selon lui, peut être un gars qui peut bien représenter la boxe en tant que champion au Québec si jamais ça devait se concrétiser là, à l'Olympia le 22 octobre prochain.
Donc, le 22 octobre, au Olympia, je sais pas combien de personnes on pourra accueillir, Jérémy?
Bonne question. Écoute, il n'y en a pas été question aujourd'hui avec Yvon Michel. Là, faut comprendre que c'est le premier gala depuis, bien sûr, le gala au stade IGA, dans lequel la jeune boxeuse de 18 ans, Janet Zapata, a perdu la vie. Malheureusement, le gala qu'on va avoir le 22 octobre devait avoir lieu au mois de septembre. Mais Yvon Michel, étant donné ce qui s'est passé, voulait vraiment prendre le temps de clore ce dossier-là avant de se lancer dans un autre gala. Donc, il l'a reporté d'un mois. Donc, c'est vraiment le premier gala depuis ce temps-là. On a essayé de poser quelques questions là-dessus. Malheureusement, aujourd'hui, là, on ne voulait pas répondre à ces questions-là durant le point de presse.
Et maintenant, je voulais revenir. Bon, victoire du CF Montréal. Et c'est spécial quand même parce que l'équipe sur le terrain, c'est sûr qu'il y a une job de vente à faire là, pour que ça connecte. Puis là, je parle pas juste des gens qui ne gèrent pas encore le changement de nom. Parce que l'équipe est quand même pas méchante. Tu sais, je veux dire, il faut que les gars se fassent connaître. C'est sûr que deux années ou une année et demie de COVID, c'est pas la formule idéale pour une équipe canadienne contrainte de jouer aux États-Unis. Mais il reste que là, je sais pas si le monde va embarquer dans la parade, mais l'équipe sur le terrain, puis hier, c'est en tout cas, c'est une belle victoire. Surtout après la défaite du week-end ici à Montréal. Ça, c'était plate un peu, mais est-ce que se sont bien repris contre Orlando? Je sais pas si c'était pas des cartons rouges, on serait sorti de là gagnant, là, Jérémy, là, mais...
Ouais, ça aurait probablement été beaucoup plus difficile, mais... Écoute, tu sais, la réalité, c'est que les gens ne connaissent pas ces joueurs-là. On a accès seulement à eux sur Zoom occasionnellement. Tu sais, on les voit pas à la télévision. Ils sont pas invités. Ben, je sais pas s'ils sont pas invités, mais en tout cas, l'équipe ne semble pas vouloir les présenter aux gens, les inviter à des émissions ou quoi que ce soit. Donc, c'est difficile pour les gens d'avoir un attachement pour cette équipe-là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis dans la dernière année, et tout, la grande majorité des joueurs qui sont là, ce sont des joueurs qu'on ne connaît pas. Même Romel Kyoto, là, c'est sa deuxième saison avec le CF Montréal, mais il n'avait jamais joué à Montréal véritablement avant le dernier mois. Donc, c'est pas un gars qu'on a eu la chance d'apprendre à connaître beaucoup, mais c'est sûr que quand tu as un Romel Kyoto en santé sur le terrain comme hier, premier départ en quoi deux mois, puis il te sort un but, deux passes, il fait toute la différence, mais je pense que c'est ça qui fait en sorte que même si l'équipe va bien présentement, ben l'équipe va bien depuis le début de la saison, là, c'est pas un hasard. À un certain moment donné, quand t'es rendu où ils sont, après tu sais, deux tiers de la saison, c'est pas un hasard. C'est une quand même une bonne équipe de soccer de la MLS avec un bon système de jeu. Mais je pense que les gens ont beaucoup de difficultés à s'identifier aux joueurs parce que tout simplement, ils ne les connaissent pas. Là.
Maintenant, hier sur les médias, c'est pas toujours chic sur les médias sociaux, pas juste, peu importe le sujet là, mais j'ai vu ton texte bon, l'impact où le CF et quelqu'un de l'organisation, a décidé d'aller sur les médias sociaux pour souhaiter bonne fête à son président, puis ça a pas exactement bien tourné la suite des choses. Est-ce que ça dépassait les, j'ai pas tout lu là, mais est-ce que ça dépassait les bornes ou la liberté d'expression existe, là, tout le monde a le droit de s'exprimer. Peut-être qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont couru après le trouble. C'est pas toutes les organisations qui souhaitent bonne fête à leur président. Les médias sociaux non plus, là?
Ben, c'est sûr que le timing n'était pas excellent parce que, après ce qui s'est passé ce week-end, on le sait, là, il y a un litige entre les groupes de supporters et le président Kevin Gilmour. Et là, ben, en sortant les ultras, tu sais, on a utilisé la section pour mettre une toile dessus, un gros logo du CF Montréal et aussi le nouveau slogan de l'équipe qui est droit devant. Donc, je pense que c'est un message clair que l'organisation voulait lancer aux ultras, c'est-à-dire, nous autres, on continue sans vous, et c'est sûr que la réaction a été extrêmement vive chez les ultras sur les médias sociaux, et là, cette semaine, lorsqu'on a profité pour souhaiter bonne chance à Kevin Gilmour, ben, je peux-tu vous dire que, justement, on lui a fait la fête sur Twitter, Instagram, Facebook, les messages, c'était un après l'autre, c'était vraiment pas très gentil, et tout ça, mais pour moi, le timing était pas très bon. Je veux dire, si tout était au beau fixe, ça aurait été différent. Mais
c'est un bras de fer à finir, Jérémy, j'ai l'impression, là. Tu sais, ils se répondent par les médias. C'est une attitude de quelqu'un qui veut répondre. Puis c'est sûr que si l'équipe gagne, puis je veux dire, tu sais que la victoire, c'est le meilleur remède à tout. Là. Même avec le Canadien, il y en a qui étaient furieux, puis boum, ils arrivent en série, s'en vont en finale de la Coupe cette année. Fait qu'il y en a qui ravalent, ceux qui étaient plus amers par rapport aux dernières saisons régulières. Fait que s'il fallait que l'équipe surprenne sur le terrain, peut-être que ça va y aider à gagner son bras de fer. Peut-être pas, je sais pas, je regarde ça de loin, là.
Peut-être, mais tu sais, je veux prendre l'exemple un peu du Crew de Columbus qui a proposé plus tôt cette année un changement de nom et un changement de logo. Finalement, lorsqu'on a vu que les supporters n'appréciaient pas, on s'est rapidement ravisé, puis on a dit non, on va garder le nom, on va garder le logo. Et cette semaine, le Crew de Columbus est allé chercher une grosse victoire contre les Red Bulls. Ça s'est terminé 2-1. Et après le match, on a vu les joueurs et les partisans, les ultras de Columbus chanter en chœur après le match et tout ça. Puis je me suis dit, tu sais, pourquoi pour eux ça a été aussi facile de dire on va respecter la volonté des partisans, puis regarde la relation d'amour maintenant entre le club et ses supporters, tandis qu'ici on est dans un bras de fer qui dure depuis 9 mois, puis il y a personne qui semble vouloir mettre de l'eau dans son vin. Je trouve que c'est pas la façon de procéder.
Mais ils doivent avoir des stats qui leur disent de tenir bon. Tu sais, c'est comme si on écoutait des gens qui, tu sais, en tout cas, je veux pas faire de comparaison avec tout ce qui concerne la COVID, mais tu sais, ceux qui font le plus de bruit, c'est pas nécessairement toujours la majorité mathématique. Mais bref, j'arrête là parce que je veux pas mettre le trou à soi, Jérémy. Merci beaucoup et je te souhaite une excellente fin de soirée, mon cher. Puis merci d'avoir été avec nous autres. Salut, Philo.
Ça part.
Bye bye. Une pause et on est de retour.